Didier Pinault-Valenciennes, bonjour.
Bonjour.
Merci de me recevoir chez vous. On sait que vous avez été un grand dirigeant d'entreprise, hein, de l'entreprise Schneider, mais pour les anciens comme moi, on disait Schneider avant de dire Schneider Electric. Hein. C'est effectivement votre réalisation. On connaissait moins de vous votre passion ancienne, hein, des livres. C'est ce que vous racontez dans le Soleil et Sympathie aux éditions du Cherche Midi. Pourquoi avoir voulu justement nous parler de ces livres, de cet amour de la littérature française?
Alors, je vais peut-être commencer par vous dire que, à mon âge, je m'intéresse énormément au caritatif. C'est-à-dire que je voudrais rendre à ceux qui m'ont formé ce qu'ils m'ont donné. Par conséquent, je m'occupe de mon lycée, je m'occupe de mon école, HEC, et je m'occupe de la médecine, des grandes maladies, d'aider à résoudre les problèmes des grandes maladies. Et, m'occupant de mon lycée, un jour, je sortais du lycée Janson de Sailly, rue de la Pompe, et je vois un groupe de jeunes, d'une douzaine d'élèves, et qui tous étaient en train de pianoter sur leur portable. À ce moment-là, comme dans un rêve, je lève les yeux et je vois les bustes des grands auteurs français qui sont le long du mur de Janson de Sailly, et je les vois dans mon rêve faire la grimace. Je baisse un peu les yeux, et je vois les fenêtres qui s'ouvrent et je vois tous mes professeurs que j'avais eus en 5e, 4e, 3e, 2e, 1ère, qui s'ouvrent et qui me disent « défends-les, défends-les ».
Il y a un changement.
Alors, en réfléchissant, en allant vers ma voiture, je me suis dit « il faut que j'écrive quelque chose ». Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre. Et peut-être maintenant, pourquoi le titre ?
Oui, Soleil et Sympathie.
Soleil et Sympathie. Eh bien, le premier travail que j'ai eu après un long service militaire de près de 28 mois dans la marine, eh bien, j'ai eu la chance de travailler pendant 2 ans pour Albert Camus chez Gallimard. Et ça a été un des moments merveilleux de ma vie. Et Camus m'a donné mon premier livre de collection, qui était « La chute », et il m'a donné ce livre numéroté avec une dédicace qui était « Soleil et Sympathie ». Et j'ai repris la dédicace de Camus pour faire le titre de mon livre.
Ce que vous racontez dans cet ouvrage, c'est que Camus, ça a été quelqu'un de proche pour vous, puisque quand vous étiez chez Gallimard, voilà.
Je le voyais tous les jours.
Nous, on le connaît comme auteur, parce qu'on a lu certains de ses livres, mais vous l'avez vu.
Je le voyais tous les jours, un petit peu avec sa vie privée dont je ne veux pas parler, mais ça fait partie du secret professionnel, parce que j'étais un peu habitué à traiter de la vie privée des grands. J'ai été aide de camp dans la marine à l'amiral, et c'est là où j'ai appris la vie, finalement, et comment il fallait gérer la vie privée de la personne que vous serviez. Et ça se fait avec beaucoup de discrétion, de professionnalisme. Et c'est peut-être là que j'ai appris les qualités professionnelles qu'il faut avoir dans la vie.
On a effectivement... Vous racontez hein, beaucoup d'anecdotes, beaucoup aussi de choix que vous faites sur les ouvrages. Vous parlez de René Char, effectivement, que vous aimez beaucoup. Moi, je vous ai connu finalement à travers votre direction de Schneider. Je ne connaissais pas cette partie-là. Comment vous êtes passé de cet amour de la littérature, de ce travail-là, à, d'un seul coup, l'entreprise? Vous avez fait HEC, vous en parliez au début de notre entretien. Comment ça s'est passé, ce passage, finalement?
Je dirais que la lecture a toujours, pour moi, été un support de la vie de tous les jours. Et dans de nombreuses circonstances, la lecture m'a profondément aidé à résoudre les problèmes journaliers que j'avais, ou dans ma vie personnelle, ou dans ma vie professionnelle. Donc, je trouve que la lecture est quelque chose de capital dans la vie. Elle contribue à votre formation. Elle vous permet d'acquérir des valeurs. Et elle vous permet de faire des choix. Et par conséquent, dès que j'avais un problème dans ma vie professionnelle ou dans ma vie familiale, je me mettais à lire. Et je retrouvais toujours dans mes grands auteurs ce que je cherchais pour m'aider à résoudre les problèmes du moment.
Alors, aujourd'hui, vous parliez de ces tablettes, de ces jeunes. Effectivement, aujourd'hui, voilà, nous en avons tous les deux une, voire plusieurs. Parce qu'aujourd'hui, on sent que ce mouvement, il a été fort. Il y a une génération qui est née avec ces tablettes, qui est née avec ces smartphones. Donc, pour lui donner à cette génération-là, peut-être à vos petits-enfants, le goût d'y revenir, par quel moyen on pourrait leur donner envie.
Voilà, je crois que les tablettes et le portable, c'est maintenant une réalité qui va évoluer, elle aussi, parce que les habitudes, elles sont faites pour changer. Bon. En ce moment, c'est la tablette et le portable, dont ils usent et ils abusent, parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans. Les choses se décanteront avec le temps. Et je ne veux pas supprimer le portable ni la tablette, parce que je crois qu'il y aura toujours une nécessité de les avoir pour aider à résoudre des problèmes. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Mais les choses peuvent se faire différemment. Et moi, ce que j'espère, c'est que il va y avoir une utilisation effectivement différente de ce nouveau mode d'accès à la connaissance, parce que on est dans une période d'abus, comme je le disais il y a un instant, et il va falloir décanter. Mais il va falloir les garder. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, là où nous sommes, je cherchais la définition de l'amitié par Alain. Et j'étais plongé dans mon livre de la Pléiade et je cherchais. J'ai un de mes petits-enfants qui passe et qui me dit « Qu'est-ce que tu cherches ?» Et je lui dis « Je cherche la définition. » Et en 15 secondes, il me trouve la définition que je cherchais de l'amitié d'Alain. Bon, c'est un avantage. Mais je vais vous montrer un inconvénient. En écrivant mon livre, je cherchais, je crois que c'est à la fin du livre, dans le dernier chapitre, je cherchais une définition de Roger Martin Lugard. Et je cherche dans Internet, et Internet me donne Maurice Martin Lugard. Et c'était faux. Donc vous avez une information fausse qui se répand éternellement grâce à Internet. Bon, donc il faut faire toujours très attention avec la recherche de la vérité quand on s'adresse soit à Internet, soit même à la recherche véritable, à la source de l'information.
Alors, l'une aussi des périodes que vous racontez, c'est bien sûr, et puis ça fait partie de vos origines, c'est la Vendée, hein, avec, vous parlez de deux Vendéens célèbres, mais on pourrait dire qu'il y en a un troisième ici, maintenant, devant moi, avec Clémenceau, Jean Delatte de Tassigny. Alors, on sait que la Vendée du 18e a souffert, hein, bien sûr, de la Révolution française, ça a été peut-être une période un peu occultée. Celle d'aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit qu'elle entreprend, et vous avez fait un parallèle entre celle qui a souffert à cette période-là, et finalement, celle qui aujourd'hui entreprend de manière admirable.
Oui, je crois que c'est. Je vais vous dire, le Vendéen est quelqu'un de très courageux. Le Vendéen est travailleur et le Vendéen est fidèle. Bon. Alors, avec ces trois qualités, je crois que c'est Chateaubriand qui, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, disait. Le Vendéen, c'est un énorme travailleur et on le voit bien derrière sa charrue. C'est-à-dire qu'il laboure. Hein. Il travaille pour créer. Et je crois que c'est ça les caractéristiques du Vendéen. Et moi, j'aime bien ça. Et puis le Vendéen, c'est un fidèle. Moi, j'ai dans mon petit village de Vendée, à la Caillère-Saint-Hilaire, j'ai toujours des copains qui étaient avec moi quand on avait 10 ans et qu'on allait mettre des collets pour attraper des lièvres dans les grands bois. Je suis resté très fidèle en amitié avec eux et ce sont mes copains de toujours et il faut cette fidélité parce que je crois que là aussi le Vendéen est fidèle. Alors voilà des tas de caractéristiques qui font que j'aime la Vendée et que la Vendée est un modèle pour la France, hein. Nous avons en Vendée actuellement 4% de chômeurs quand il y en a 8 en France. Hein. Bon, vous avez en Vendée des PME qui se créent tous les jours, malgré toutes les difficultés qu'on a dans notre pays pour créer des PME.
On aura l'occasion d'en reparler. On est justement dans cette période capitalisme et travail. Est-ce que ce n'est pas finalement au cœur de nos interrogations collectives aujourd'hui? On sait que le capitalisme, voilà, il est partout, y compris dans les pays communistes. Il n'y a plus que le capitalisme, on pourrait dire. Mais on voit aussi qu'il est contesté. On est dans un climat qui ressemble quand même un peu à celui des années 30, après la crise financière, la crise économique, la crise sociale, la crise de la société. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il faut en trouver ou en réinventer un capitalisme ?
Non, moi je crois, je vais vous dire, ma conviction, c'est que le général de Gaulle avait été un des premiers à nous dire comment il voyait l'évolution du capitalisme. C'était l'association du capital et du travail. Dans la création de richesses, il faut que tous les participants à la création de richesses aient leur dû. Il faut que le capital ait son dû, il faut que le travail ait son dû, il faut que la société dans son ensemble ait son dû. Et c'est une harmonie, un partage harmonieux pour permettre que le premier objectif soit la création de richesses. Et moi, ce qui me désespère en France, c'est que on pense à la distribution avant même d'avoir créé la richesse. Commençons par favoriser la création de richesses et prévoyons des dispositifs qui permettent une redistribution harmonieuse de cette richesse et non pas un système confiscatoire comme ceci a été le cas depuis 1981, l'arrivée des socialistes au pouvoir dans ce pays.
Donc il n'y a pas eu, de votre point de vue, on est parti sur effectivement une évolution où le curseur il a été trop du côté des actionnaires, je pense aux sociétés en bourse qu'on connaît bien, il a été
Moi je pense qu'il y a eu des exagérations des deux côtés, si vous voulez, et on n'a pas suivi les conseils du général de Gaulle, qui lui avait bien compris avant tout le monde la nécessité de cette association du capital et du travail. Vous voyez, par exemple, chez Schneider, moi je faisais en sorte que tout le personnel puisse devenir actionnaire. Hein. Tout le personnel pouvait souscrire à une augmentation de capital tous les ans, à l'équivalent d'un an de salaire, à un cours de bourse 30%, à un cours de bourse inférieur de 30% pour favoriser le capital et le travail.
Mais aujourd'hui, quand on regarde ces entreprises du CAC 40 que je connais bien, finalement aujourd'hui, vous avez des fonds de pension américains, vous avez des retraités californiens qui sont les principaux actionnaires de ces entreprises.
Écoutez,
il y a très peu de Français.
Moi je suis désespéré de voir que les 40 sociétés du CAC 40 sont toutes détenues par des étrangers. Et aujourd'hui, ils ne se sont pas manifestés dans les assemblées générales, peut-être une ou deux fois. Mais si ils venaient à intervenir systématiquement dans les assemblées générales, nous perdrions le contrôle de nos affaires. Hein ? Et je dis, c'est le politique qui a voulu ça, de droite comme de gauche, en nous faisant des lois qui empêchent la création de richesses et qui s'ingénie à distribuer ce que nous n'avons pas créé. D'où l'augmentation de la dette de la France et des emprunts, même dans les sociétés. Hein ? On emprunte beaucoup trop, on ne favorise pas la création de capital et un capital réparti harmonieusement entre le travail et le capital.
Oui, parce que vous dites dans les livres que les entreprises, toutes les entreprises ont besoin de fonds propres et pour se développer, bien entendu. Mais aujourd'hui, bah, si on prend que celle du CAC 40, clairement, les fonds propres, s'il y en a de plus en plus, c'est parce que ces actionnaires américains, anglo-saxons, la veuve, effectivement, en Écosse, vient investir
dans les Scottish Widows.
Vient investir dans les boîtes françaises.
Absolument. Absolument. Bon, ce qui me rend optimiste, parce que ça veut dire que les affaires françaises attirent des investisseurs internationaux et qu'eux ont confiance dans la France et l'imagination des Français. On a une capacité entrepreneuriale exceptionnelle. Et je crois que le côté inventif de nos compatriotes est une de nos qualités qu'il faut développer. Or, le politique, par ses lois de gauche comme de droite, depuis 1981, n'a cessé d'inventer des lois qui sont en contradiction avec le développement du travail en France et du développement entrepreneurial de notre pays.
Alors vous avez eu la chance, comme dirigeant de grande entreprise, de rencontrer les politiques français, vous les avez rencontrés tous, la fois pour des bonnes raisons, pour de mauvaises, quand vous vouliez restructurer, quand vous vouliez faire évoluer le groupe Schneider, mais vous les avez vus, vous avez quelque part l'écoute de ces politiques, un patron de PME, c'est rare qu'il ait la même écoute, mais les politiques, finalement, on a l'impression qu'ils ne vous entendent pas, parce que ce que vous dites aujourd'hui ici, vous leur avez sans doute dit, et on ne voit pas un président de la République arriver et dire on a un déficit d'ETI en France par rapport à l'Allemagne, je mets tout le paquet pour que ça change.
Voilà, je l'ai espéré chaque fois et j'ai été déçu chaque fois. Par conséquent, c'est pas un problème ni de gauche ni de droite. Moi, j'ai vu quelquefois à gauche des gens très compréhensifs sur ces sujets. J'ai vu à droite des gens très compréhensifs sur ces sujets. Mais pour passer à l'action, je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne. Et je dirais même, j'ai vu le contraire. Donc, je trouve désespérant de voir que nous ne sommes pas capables de tirer parti des chances colossales que nous avons. La France est le pays qui est géographiquement placé au meilleur endroit du monde. On a une situation géographique exceptionnelle. On a une capacité de formation de nos élites exceptionnelle, sur le plan des ingénieurs, sur le plan de l'entrepreneur, de la création d'entreprises. Moi, je vois tous les jeunes que je rencontre, on a une qualité de capacité d'entrepreneur exceptionnelle, exceptionnelle. Et puis, on voit tous ces atouts qui sont gâchés. Et cela me désespère. Et je supplie les politiques, quand ils ont le pouvoir, de mettre en œuvre en priorité les actions qui permettraient de développer nos chances. Et les chances, nous en avons.
Oui. Mais est-ce que c'est possible? Parce qu'on sait que pour une entreprise d'une taille du CAC 40, il faut anticiper. C'est ce que vous avez fait, vous, pour faire de Schneider un leader mondial dans le domaine de l'électricité. Mais ces changements que vous avez faits, vous avez anticipé sur une évolution que vous aviez analysée. Oui. On a l'impression que les politiques, eux, de toute façon, en plus, avec un quinquennat, c'est un raisonnement à 5 ans. Ils vont faire un raisonnement à 5 ans. Écoutez, et le long terme est beaucoup plus compliqué.
Je vais vous raconter une anecdote. Quand, dans ce processus de concentration des sociétés d'électricité, que nous avons fait une OPA sur la télémécanique, là où je suis assis, un samedi matin, je reçois un coup de téléphone du Premier ministre qui m'interdit de faire l'OPA sur la télémécanique. Il m'interdit. Hein ? Je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, je ferai l'OPA sur la télémécanique. Je ne vous dis pas ce qu'il m'a répondu. Dix minutes après, au même endroit, je recevais un coup de téléphone du président de la République qui me disait, je vous en supplie, ne le faites pas. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, je le ferai parce que je dis, c'est bon pour la France, on est en train de créer un leader mondial. L'Amérique a je ne sais combien de leaders mondiaux, l'Allemagne aussi, la France, nous sommes en retard, on a là une opportunité, il faut le faire, et le faire tout de suite. Il me dit, vous le ferez plus tard. J'ai dit, non, Monsieur le Président, la chance, elle sera peut-être partie. Et voilà, nous n'avions pas les mêmes délais. Mais c'était le président Chirac, et il m'a laissé faire. Et il m'a laissé faire.
Ça montre aussi que le politique et l'économie en France sont liés.
Mais fallait-il encore un peu de courage ? Je vais vous raconter une autre anecdote, si ça vous amuse. Dans l'opération Square Deal aux États-Unis, le président de General Electric me fait venir dans son bureau. Je ne vous raconte pas les détails de l'affaire, mais pour me dire « tu ne feras pas l'opération Square Deal ». J'ai dit « mais si, je ferai l'opération ». Et il prend son téléphone. Et il appelle le président Bush devant moi. Et il dit au président Bush, il faut interdire à M. Pino Valenciennes de faire l'OPA sur Square D. Il termine sa conversation, je prends mon portable, j'appelle l'Élysée, devant lui. Le président Mitterrand m'a pris, et je lui ai expliqué ce qui venait de se passer. Il m'a dit, je m'en occupe. Mais fallait-il avoir un peu de culot et de courage pour rappeler devant mon adversaire américain, le président de la République française.
Ça veut dire aussi qu'on doit être moins naïf, parce que ça veut dire que ça se passe à ce niveau-là quand il s'agit de ce type d'entreprise,
voilà,
d'entreprise
stratégique. Voilà, c'est-à-dire que, moi je vais vous dire, dans le monde du business, oui. Hein, je me souviendrai toujours de cette phrase du général de Gaulle au président Pompidou, « Soyez dur, Pompidou ». Ben, dans le business, on ne peut pas être tendre. Hein. Il faut être dur. Il faut être dur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être humain. Parce que je crois avoir été humain dans tous les choix que j'avais faits, mais il faut être dur dans les choix que l'on a faits et quand on pense que ce sont les bons choix.
Alors, il y a, si on revient à Schneider, moi j'étais du côté de la Tribune, j'étais journaliste à l'époque à la Tribune à ce moment-là, quand vous étiez dirigeant effectivement du groupe, ce qu'on appelle les affaires belges de l'époque, ce qui vous a conduit effectivement au tribunal et passé 12 jours en prison, hein, vous êtes un des rares dirigeants à avoir subi cela. Cette période-là, elle est aujourd'hui sur Internet, ça m'a, avant de venir vous voir, j'ai regardé, et j'ai tapé Didier Pignon-Ancien et je me dis, mais finalement, ça reste encore. Et on n'a même pas en une le fait que vous ayez été blanchi. Non, on a encore les 2012, on a encore les condamnations.
Mais j'ai jamais été condamné, Jérémy. J'ai été condamné par la presse, par les médias, mais pas par la justice. La justice a pris 25 ans, le procès. J'avais 151 préventions inventées par le policier de service, je dis bien par le policier de service, contre moi. Ces 151 préventions ont été démolies une par une par mes avocats et le juge, parce qu'en Belgique, il y a un juge unique, a considéré que j'étais blanc sur toute la ligne. Je crois qu'il y a un ou deux problèmes techniques comme une virgule dans le procédure, dans la procédure d'OPA qui n'était pas au bon endroit, mais enfin... un grief absolument mineur. Sur le fond, des 151 préventions, pas une n'a résisté. Et ben voilà. Eh bien, aujourd'hui, 25 ans après, j'ai été blanchi sur toute la ligne, et pas un mot dans la presse, pas un mot en public.
Donc un décalage entre...
Un décalage entre les médias, d'une part, et les faits. Moi, je trouve ça désespérant. J'ai d'ailleurs écrit à Carlos Ghosn au moment de cette affaire, parce qu'il est tombé dans le même traquenard que moi. Hein? Le policier de service m'a appelé pour me dire « Voulez-vous venir ? Il y en aura pour une heure, j'ai trois questions à vous poser. » Et il venait pour m'enfermer. Bon, eh bien, Carlos Ghosn, ça a été la même chose. Je ne juge pas sur le fond. Sur le fond, moi, c'est la présomption d'innocence qui doit être la règle absolue, alors que les médias ne respectent pas cette règle. Hein, il devrait la respecter. Bon.
Et là, ça s'est passé avec vous en Belgique, mais quand on connaît le fonctionnement aujourd'hui de ce type de dossier, on voit que les États-Unis n'hésitent pas, avec des procureurs, à attaquer des entreprises françaises. Aujourd'hui, il y a peut-être des grands patrons français qui ont ce type de risque, tout simplement parce qu'ils font des affaires en dollars. Donc, qui peut-être un jour ont la même chose que vous, parce qu'un procureur américain dira vous n'auriez pas dû commercer avec l'Iran ou avec tel autre pays.
Oui, c'est-à-dire que je crois que dans le monde, on va dire dans la mondialisation d'aujourd'hui, on est dans une bataille permanente et on est dans une bataille en fait pour la mondialisation. Donc le premier objectif dans une stratégie, a-t-on une chance d'être mondial ? Si on a cette chance, il faut y aller. Mais si on est mondial, on a le risque des procès, de la justice internationale, et tous les moyens sont bons actuellement pour vous attaquer. Et vous voyez dans les assemblées générales, là encore, c'est là le danger d'ailleurs d'avoir nos actionnaires qui sont tous étrangers. Parce que si nous avions des actionnaires français qui contrôlaient leurs affaires, on serait protégés d'une certaine façon. D'avoir des actionnaires internationaux, on perd cette protection. Et on est le seul pays à perdre cette protection. Les Allemands contrôlent leurs affaires. Nous, à cause d'une volonté fiscale redistributive à tout craint, eh bien, nous avons, à cause de cela, perdu le contrôle de nos affaires. Et on a perdu la défense de nos affaires. Donc, il y a toute une mentalité à changer.
Arrêtez peut-être de considérer la bourse juste comme la spéculation qui existe, non, qui est au jour le jour, mais de dire qu'on accompagne la vie des entreprises, l'actionnaire.
Je raconte une anecdote dans mon livre, comment mon père m'a appris ce que j'appelle la morale de la parole donnée. Et j'avais 7 ans, il m'a emmené à la foire aux bestiaux de Parthenay pour voir comment se faisait la transaction. On se tapait dans la main. Et se taper dans la main, c'était la promesse. Il n'était pas question de ne pas respecter sa promesse. Dans le monde des affaires, on ne respecte pas toujours sa promesse. Eh bien, pour moi, c'est quelque chose de très important, c'est la nouvelle morale des affaires. S'il y a un nouveau capitalisme, il doit y avoir une nouvelle morale également. On respecte ses engagements. Et nos amis étrangers, qu'ils soient américains, anglais, hollandais, italiens, allemands ou japonais, hein, ne respectent pas nécessairement la parole. Donc il y a toute une morale. Moi, si j'étais patron d'une business school, j'aurais tout un cours sur ce sujet. Hein? Éthique, une nouvelle éthique en matière de relations des affaires, qui n'existe pas. Et à mon âge, on peut en parler.
Oui. Et cette mondialisation, parce que on voit bien avec les mouvements sociaux en France, finalement, on a l'impression qu'elle n'a pas été expliquée aux Français, globalement. Moi, la mondialisation, finalement, en tant que journaliste, je l'ai vue. Je l'ai comprise grâce aux dirigeants d'entreprise que j'ai interviewés, qui m'ont expliqué qu'ils allaient dans tel pays, qu'ils partaient de la France, qu'ils allaient se développer en Belgique, l'autre qui allait se développer au Canada, tel autre en Chine. Mais la plupart des Français l'ignorent aujourd'hui. Mais ils la voient comme une menace. Comment on peut leur expliquer que les Français aussi en peuvent en bénéficier ?
Eh bien, je vous dirais, moi je dis, les affaires, c'est un jeu d'échecs. Et le jeu d'échecs, ce sont des mouvements, et des mouvements compliqués. Hein ? C'est pas toujours comme au jeu de dames où on pousse un pion, qui est également un jeu compliqué. Mais le jeu d'échecs est encore plus compliqué. Et au fond, sur l'échiquier qu'est le monde, il faut bouger nos pions pour arriver à la position dominante. Je ne dis pas de tout gagner, on ne peut pas être le seul à gagner, mais être en position dominante. Et on doit apprendre cette stratégie dans tous les métiers et arriver à faire d'un petit métier un métier mondial. Et on peut être à l'origine de la création de ce métier mondial. Et à partir de là, on peut créer un très grand nombre de secteurs mondialisés. Est-ce qui nous donnera la richesse ? Est-ce qui nous donnera la richesse ? Mais faut-il encore que l'on favorise l'investissement dans l'industrie, que l'on explique pourquoi c'est faire, hein ? Et comme vous me le disiez au début de l'entretien, les sociétés ont besoin de fonds propres, c'est-à-dire que le bénéfice, il y a une partie qui est distribuée, mais il y a une partie qui reste dans l'entreprise et qui permet de créer la nouvelle richesse. Mais c'est pour cela qu'il faut que le personnel soit également associé au capital. Et moi, je suis très content quand je vois une société où vous avez les actionnaires traditionnels et puis, par le biais de fonds de pension ou tout ce qu'on voudra, mais réservés au personnel qui permettent à ceux qui ont participé à la création de richesses de devenir également copropriétaires de l'entreprise en admettant tout à fait le contrôle du capital par un groupe d'actionnaires et les autres étant en annexe, bien sûr, mais qui ont leur mot à dire en étant actionnaires.
Alors, on parlait de cet espoir, mais quand on regarde le monde des affaires aujourd'hui, et je suis bien placé pour le connaître aussi de mon point de vue à moi, de mon côté, moi, ce que je constate, c'est quand même qu'on a l'impression qu'il y a des réformes qui, en France, qui arrivent, sauf qu'à chaque fois, elles sont détricotées à Bercy. Et on voit cette élite, et notamment du côté des énarques, on voit qu'il y a récemment une étude qui est sortie comme quoi ils connaissaient rien, les étudiants à l'ENA connaissaient rien en économie. Et est-ce que c'est pas là le problème de la France ? On en parle souvent, là. On cherche un bouc émissaire, mais les énarques, ils sont aujourd'hui au gouvernement, ils sont à Bercy, ils sont dans les entreprises. Et ces énarques-là, est-ce qu'ils ont finalement une culture économique suffisante ? Vous qui, dans votre vie, je dirais chez Schneider, et dans votre vie professionnelle, est-ce qu'à un moment donné, vous ne dites pas, les blocages, ils viennent de là ?
Alors, je vous dirais d'abord que trop de sociétés étaient gouvernées par les mêmes écoles. Et ça, je crois que c'est très mauvais. Hein ? C'est-à-dire, c'est ou l'école polytechnique, ou HEC, ou Centrale. Vous avez dans les sociétés, elles sont monolithiques, et tous les postes sont distribués à des gens ayant le même diplôme. Je crois qu'il faut de tout pour faire un monde. Et quand j'étais chez Roune Boulenc, j'ai eu un patron exceptionnel, Renaud Gillet. Je crois avoir tout appris de lui. Et il voulait absolument que toutes les divisions soient dirigées par des gens de formations différentes, pour que ce soit une sorte de melting pot de formation et qu'il n'y ait pas l'empreinte d'une seule signature. Et je crois que c'est très important. Et au niveau de l'État, c'est pareil. Vous avez l'énarchie qui contrôle tout. tout l'État est contrôlé par l'énarchie. Hein, c'est-à-dire que ce soit le monde politique, d'une part, mais également au niveau du ministère des Finances et à Bercy, avec des, on va dire, des donjons, comme au Moyen-Âge, qui contrôlent tout. Hein. Je comparais l'État français au petit village italien de San Gimignano, où vous avez les 5 ou 6 tours qui gouvernaient San Gimignano à l'époque de la Renaissance. Eh bien, nous sommes en France à l'époque de la Renaissance, il faut casser tout ça, et il faut développer la philosophie de Renaud Gilet, il faut de tout pour faire un monde, dans le monde politique, comme dans le monde économique, il faut de tout pour faire un monde, et comme cela, vous aurez des cultures différentes, et vous aurez des approches différentes, qui nous augmenteront nos chances de réussite, parce que nous n'aurons pas un seul point de vue.
Surtout dans un monde qui est en pleine transformation, comme on le vit en ce moment avec ces révolutions.
Moi j'aime beaucoup la définition de l'intelligence par André Gide. André Gide disait « l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation ». Eh bien, cette sclérose que nous avons dans l'organisation de la société française, elle est due à cette mentalité, et j'espère bien que le président Macron va supprimer l'ENA, ou en tous les cas, la monopolisation des postes tels qu'ils ont lieu aujourd'hui.
Moi, je suggérais de les obliger à faire un stage dans une TPE et bien sûr dans une ETI avant d'avoir leur diplôme.
Oui, mais bon, les stages, ça peut être des stages de complaisance, par conséquent.
Il faut que ça soit efficace. Vous les avez vus dans votre vie professionnelle, c'est à Bercy ou ailleurs, vous bloquez
Moi je les ai vus, mais même ricanant, hein, les petits jeunes sortant de l'ENA, étant dans les cabinets ministériels, et voulant vous dicter leurs lois. Hein. J'ai même été enfermé jusqu'à 5h du matin à Matignon une fois, et également jusqu'à 5h du matin au ministère des Finances. Hein. Non, mais c'est des procédés inacceptables. Inacceptables. Ça n'existe dans aucun autre pays.
L'objectif, c'était de vous faire changer d'avis par
Absolument.
Rapport à vos opérations.
Non. Mais vous savez, je vais vous dire si j'ai résisté même à l'intérieur de Schneider. Un jour, le directeur du personnel de Schneider vient me dire un matin... vous savez, il y a une petite rébellion dans la maison parce que les gens pensent que, à cause de vous, ils vont être mal avec les pouvoirs publics. Je dis, mais moi, ça m'est complètement égal. Je veux ne plus dépendre des pouvoirs publics. Mes clients, c'est le monde. C'est plus l'État. Il faut se libérer de la tutelle de l'État.
Voilà, ce qui n'est pas facile en France, on l'a bien compris. J'ai envie de finir avec vous sur un espoir, parce que mon impression, c'est qu'en France, on est en pleine dépression. J'ai la chance d'être sur les réseaux sociaux, la chance ou pas, ça dépend. Mais on voit tellement de désespoir, voilà, on a l'impression que la France est en pleine dépression, et j'ai envie de terminer avec vous, qui avez cette expérience, qui avec tous ces livres, dans les livres, il y a de l'espoir, il n'y a pas de ce type de sujet. Quel espoir on peut avoir justement pour l'avenir, pour les enfants, pour la génération qui... On a dit qu'elle était technologique, qu'elle était avec ses tablettes, mais elle a ses défis. Vous avez eu des défis à répondre, on a tous eu des défis, mais la génération actuelle, elle a des défis. On parle du climat, on a parlé de gouvernance, d'éthique, des affaires. Quel espoir vous pourriez donner justement à ceux qui nous écoutent sur la génération?
Eh bien, je vous dirais que... je suis peut-être un des seuls à être très optimiste. Je suis très optimiste parce que la France est un grand pays. La France a un potentiel de qualité entrepreneuriale considérable. Et qu'aujourd'hui, je dis, on est dans une époque où on gâche nos chances. Et... le général de Gaulle avait dans le fil de l'épée cette formule « Les grands hommes le sont pour l'avoir voulu », disait-il. Et un peu plus loin, dans une phrase à peu près identique, il ne disait pas comme ça, mais ça voulait dire cela, « Les grands pays le sont pour l'avoir voulu ». Et en ce moment, on est dans une phase où j'ai l'impression que on ne veut pas être un grand pays. On manifeste un espèce de désespoir négatif, comme on le voit par les gilets jaunes, ou comme on le voit par les manifestations des grèves actuelles. J'appelle ça du négatif. Et moi, je voudrais que l'on soit comme quand le général de Gaulle est arrivé, où nous étions plus bas que terre. Et en 20 ans, il a fait de notre pays un grand pays. On a été le seul pays qui a... où il a envoyé son ministre des Finances aux États-Unis payer la dette de guerre. La France a payé la dette de guerre. Aujourd'hui, on fait de la dette pour rien. Je dirais, Français, réveillez-vous. Français, réveillez-vous et vous serez de nouveau un grand pays. Et moi, j'ai très confiance, hein, je dis, dans la jeunesse d'aujourd'hui, j'espère que c'est elle qui va tirer le tapis et faire tomber tous ceux qui aujourd'hui sont les empêcheurs de tourner en rond et qui sont les négatifs et qui empêchent la France d'être le grand pays qu'elle pourrait être. Donc je suis très optimiste parce qu'il y a toujours une génération qui est là pour relever le défi et j'espère que ce sera la nouvelle génération.
Merci beaucoup Didier Pinault-Valenciennes d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir reçus.